Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast dans lequel nous allons parler de la dysphagie ou trouble de la déglutition. On estime aujourd'hui que 590 millions de personnes sont touchées par ce trouble à travers le monde et plus de 6 millions en France. Parmi ces personnes affectées, on retrouve tout type de population et toutes les tranches d'âge. Des personnes souffrant de maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, des victimes d'AVC ou encore des personnes atteintes de cancer ORL. On constate également que ce trouble touche 50% des personnes en établissement de santé et 35% des enfants en situation de handicap. Je vous laisse en compagnie d'Aline et de ses invités et je vous souhaite une très bonne écoute.
Un podcast nourri par les équipes de NutriSens.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir à cette table ronde en version podcast. En effet, durant tout le mois de juin, NutriSens a souhaité mettre en avant un trouble peu connu qui s'appelle la dysphagie. Et donc à cette occasion, j'ai le plaisir d'accueillir trois orthophonistes qui vont nous parler de ce trouble et surtout de leur métier. Bonjour Céline, bonjour Marion, bonjour Raphaël, je vous laisse vous présenter.
Oui merci, donc je suis Céline Courbière, je suis orthophoniste depuis 25 ans. J'ai d'abord exercé en libéral pendant un certain nombre d'années et puis petit à petit je me suis tournée vers le salariat, notamment parce que le travail d'équipe m'intéressait beaucoup. Et plus spécifiquement, progressivement, dans le domaine du handicap moteur. Voilà, donc actuellement je travaille dans l'Ouest lyonnais, dans un établissement qu'on appelle Institut médico-pédagogique, qui accueille des enfants entre 5 et 15 ans. Et des enfants porteurs de ce qu'on appelle handicap neuromoteur. Voilà, parallèlement, j'enseigne à l'école d'orthophonie de Lyon et je suis formatrice au sein de l'association qui m'embauche.
Alors moi, je suis Marion Giraud-Roux, je suis orthophoniste depuis 2005 et j'interviens exclusivement en établissement de rééducation qu'on appelle SSR. Donc ces 17 années, je me suis spécialisée en fait dans les troubles de la déglutition de l'adulte pour des gens qui ont eu un cancer de la bouche ou de la gorge, qui ont subi un traumatisme crânien, qui ont eu un AVC, un accident vasculaire cérébral ou dans le cadre de maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson, des noms qu'on connaît bien. La déglutition et ses troubles, c'est vraiment un sujet qui me passionne. C'est un domaine dans lequel je suis formatrice depuis quelques années. Et pour dire à quel point il me passionne, je suis en train de terminer une thèse sur ce sujet. Je fais aussi partie du groupe de référence IDDSI pour la France. Alors l'IDDSI, c'est une initiative internationale pour harmoniser les textures adaptées aux dysphagies. On en reparlera très certainement dans la suite de ce podcast. Et c'est une démarche dans laquelle NutriSens est fortement engagée. Ça fera l'objet d'ailleurs d'un webinaire le 20 juin avec mes collègues Virginie Ruglio, donc qui fait partie aussi du groupe de référence France, et Hélène Andrews, qui fait partie du groupe de référence canadien.
Bonjour, moi je m'appelle Raphaël Déjà, je suis orthophoniste en libéral dans le sud de Lyon depuis 2008. Et là, depuis 3 ou 4 ans, je me suis spécialisée auprès des personnes âgées, donc j'interviens essentiellement en EHPAD. Et je vois aussi quelques patients à domicile.
Alors, qui accepte de nous expliquer la dysphagie en quelques mots, Marion, je crois?
Alors, pour expliquer ce qu'est la dysphagie, c'est bien déjà de comprendre qu'est-ce que la déglutition et comment elle fonctionne. Donc, la déglutition, c'est une fonction qui nous permet d'avaler ce qui se trouve dans la bouche, donc des aliments, une boisson, de la salive ou même ce qui se trouve dans le nez ou l'arrière-gorge, des sécrétions par exemple, de les avaler et de les emmener jusqu'à l'estomac. Donc la déglutition, elle met en jeu tout un tas de mécanismes ultra synchronisés, 30 paires de muscles, 5 paires de nerfs crâniens, donc c'est des nerfs qui partent du cerveau et qui vont jusqu'au visage, à la langue, la bouche, la gorge. Tout ça pour vraiment coordonner le passage de l'aliment, mais voilà, c'est aliment, boisson, salive. Donc pour coordonner ce passage, tout en protégeant ce qu'on appelle les voies respiratoires, les voies aériennes supérieures, donc tout en empêchant en fait que cet aliment passe dans les poumons ou remonte par le nez. Donc la déglutition, elle a une fonction de protection de la respiration de la personne et une fonction d'alimentation et bien sûr une fonction aussi de plaisir parce que beaucoup de choses passent par le repas, par le partage du repas, par le goût. C'est extrêmement important dans nos sociétés. Donc c'est un acte qui est à la fois moteur, où il y a tous ces muscles qui vont être entrelacés, qui vont travailler ensemble. C'est un acte qui est sensitif parce que pour bien contrôler le passage de l'aliment, on va avoir besoin d'informations sensitives. Donc on va avoir besoin de savoir quelle est sa taille, quelle est sa chaleur, sa température, quelle est sa texture pour pouvoir adapter le plus finement possible les mouvements. La déglutition, elle est à certains moments, elle va être volontaire, à d'autres moments, elle va être réflexe. Donc tout ça, c'est vraiment coordonné, c'est programmé, coordonné, contrôlé par le cerveau. Donc voilà, c'est vraiment toute une séquence qui est hautement, hautement coordonnée, ultra efficace et qui permet à l'individu donc de s'alimenter en sécurité. Donc la dysphagie, le trouble de déglutition, eh ben c'est quand quelque chose dans toute cette séquence ne va plus et que la personne va avoir un problème pour s'alimenter, un problème qui va toucher en fait soit l'efficacité, c'est-à-dire qu'elle va avaler mais pas suffisamment, il va y avoir des restes, des résidus, des stases dans la gorge, dans la bouche, qui vont rester, qui vont possiblement être avalés de travers après. Donc un problème d'efficacité ou un problème de sécurité où cet aliment, il va justement passer de travers et donc mettre en sécurité la respiration et donc possiblement mettre en jeu le pronostic vital du patient. Ça, c'est ce qu'on appelle, quand ça passe de travers, c'est ce qu'on appelle la fausse route. La fausse route, elle peut, voilà, c'est un aliment qui peut venir se loger dans le larynx et possiblement l'obstruer et donc voilà, on va s'étouffer. À distance, en fait, le trouble de déglutition, la dysphagie, elle peut conduire à des infections pulmonaires si on avale de travers trop souvent, qu'en plus on a une bouche avec une mauvaise hygiène, pleine de bactéries. Elle peut conduire à des troubles à de la dénutrition, une déshydratation quand on mange de moins en moins parce que c'est difficile, c'est douloureux, un allongement de la durée des repas et puis bien sûr une perte de plaisir de manger. On va moins participer au repas de famille. Il y a tout ce côté social aussi qui va être impacté par le trouble de déglutition.
Raphaël, la dysphagie est donc surtout connue chez la personne âgée. Est-ce que tu peux nous en parler dans ta pratique de tous les jours ?
Tout à fait. Donc chez les personnes âgées, on remarque tout d'abord donc le vieillissement a un impact sur la déglutition. Donc comme toutes les fonctions chez l'individu vieillissent, la déglutition aussi est impactée. Donc on observe ce qu'on appelle la presbyphagie, donc un ralentissement au niveau musculaire, donc des mouvements nécessaires à la déglutition. On observe aussi également des problèmes sensoriels, donc au niveau de la sensibilité dans la bouche, au niveau de du goût aussi qui est un peu moins ressenti, au niveau de l'olfaction également, et également des problèmes de dentition qui gênent la mastication, donc qui est nécessaire au départ dans les mouvements de déglutition, tout ce qui prépare à la suite. Donc toutes ces difficultés-là au niveau du vieillissement peuvent impacter la bonne déglutition ensuite. On a de toute façon, donc ça c'est le vieillissement qui peut avoir un impact ou pas, mais qui est à prendre en compte dans notre prise en charge. Après, on a vraiment des troubles dysphagiques chez la personne âgée. Elles peuvent avoir pour origine donc une atteinte neurologique centrale, donc suite à un AVC par exemple, où on observe des dysfonctionnements au niveau musculaire et sensitif également. On a également des maladies musculaires comme les amyotrophies qui peuvent engendrer des troubles de déglutition. On a des causes extérieures également, comme au niveau des traitements médicamenteux, les neuroleptiques par exemple, qui ont une incidence sur la déglutition, au niveau du goût, au niveau de la sécrétion de la salive, et au niveau cognitif également. Et on a enfin toutes les atteintes des démences qui ont un impact donc, sur le plan cognitif et qui ont des retentissements au niveau du comportement alimentaire. Et ces difficultés au niveau du comportement alimentaire peuvent fragiliser l'équilibre qu'on avait au niveau donc, de la presbyphagie, qui n'avait pas de conséquences au départ, comme la presbyphagie n'est pas une pathologie, mais avec des troubles du comportement qui s'ajoutent, la presbyphagie peut avoir des conséquences et entraîner des troubles de déglutition. Donc on peut avoir des patients qui recrachent, qui mâchonnent, qui perdent un peu le fil du repas, qui peuvent être distraits, qui ont du mal à utiliser les outils nécessaires au repas, qui parlent en mangeant, qui remplissent la bouche avant de l'avoir vidée, enfin tout un tas de comportements qui peuvent avoir des conséquences sur leur déglutition. Donc au niveau des maladies neurodégénératives, donc on a des troubles de comportement et on a aussi des conséquences vraiment musculaires, notamment dans les syndromes parkinsoniens, où on observe vraiment là des difficultés importantes. Donc c'est une pathologie qu'on prend vraiment en charge au niveau de la déglutition. On a une hypodéglutition, donc une salivation importante parce que la salive est moins fréquemment avalée, donc ça peut avoir des conséquences sur le repas. On a ce qu'on appelle un rolling lingual, donc la langue qui fait des mouvements perpétuels, qui fait que le bolus reste dans la bouche et qui ne part pas vers l'arrière. On a un retard après un ralentissement global, donc retard du coup de piston lingual, donc le fait de propulser. Un défaut donc, de transport vers l'arrière, de protection aussi des voies aériennes. Enfin, toute la chaîne finalement musculaire est impactée.
Donc la dysphagie n'est pas une pathologie qu'on rencontre uniquement chez les personnes âgées. Céline, Marion, je vous laisse nous décrire les profils de vos patients que vous suivez au quotidien.
Alors effectivement, la population d'enfants dont je m'occupe, que j'accompagne au quotidien, sont des enfants avec handicap neuromoteur et on parle plus spécifiquement de paralysie cérébrale et de polyhandicap. Alors très rapidement, pour expliquer ce que sont la paralysie cérébrale et le polyhandicap, ce sont des handicaps qui résultent de lésions cérébrales irréversibles, donc qui sont survenues sur le cerveau du fœtus ou du nourrisson, donc vraiment au moment de la naissance. Et ces lésions vont avoir comme conséquence essentiellement des troubles moteurs. Pas que, mais essentiellement. Voilà, donc la déglutition, comme l'ont expliqué Marion et Raphaël, c'est la déglutition est un acte moteur. Si le cerveau a une commande motrice qui n'est pas... La déglutition, comme l'ont expliqué Raphaël et Marion, est un acte moteur. Et dans le handicap neuromoteur, forcément, elle va être touchée. Donc on va aussi parler de dysphagie chez l'enfant. La différence entre polyhandicap et paralysie cérébrale, c'est que le polyhandicap, chez les personnes touchées par le polyhandicap, on a une atteinte motrice encore plus sévère, associée à des atteintes sensorielles et généralement des déficiences intellectuelles importantes. Il faut savoir que dans cette population de personnes présentant un handicap neuromoteur, et notamment les enfants, puisque c'est la population que j'accompagne, il existe... En plus des troubles associés, comme par exemple des problèmes d'épilepsie, des problèmes d'attention, de concentration, et également souvent des problèmes de sensibilité, notamment d'hypersensibilité. Alors on parle aussi de troubles de l'oralité alimentaire ou de troubles d'origine sensorielle. Cette hypersensibilité, bien sûr, va entraver les capacités de mastication, de déglutition des enfants.
Et alors moi, les patients que j'accompagne donc, se situent entre les patients de Raphaël et de Céline, c'est-à-dire que c'est toute la tranche adulte. Donc c'est des patients qui sont admis en établissement de rééducation la plupart du temps après un séjour à l'hôpital parce qu'ils ont, par exemple, un cancer de la sphère ORL, de la bouche et de la gorge, qui fait que ce cancer a été traité par chirurgie ou par radiothérapie. Et donc, ces patients arrivent dans l'établissement pour recevoir une rééducation suite à ces traitements. Donc, on a tout un aspect d'exercice moteur sensoriel intensif. C'est vraiment c'est des établissements où les prises en charge sont intensives. Les patients sont là pour en général 2-3 mois et après ils vont voilà, c'est un intermédiaire entre l'hôpital et le domicile, où après ils seront suivis si besoin par des orthophonistes en libéral. Donc les personnes qui sont accueillies, voilà, viennent pour un, dans les suites d'un cancer ORL, ou c'est des personnes qui ont eu, ce que je disais tout à l'heure, qui ont eu un traumatisme crânien par exemple, où là c'est vraiment la commande centrale qui va être endommagée. Des patients qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux, comme Raphaël disait, où voilà, encore cette programmation, cette commande, ce contrôle central sera problématique. Donc c'est, en fait, il y a différents, la déglutition est atteinte à différents niveaux, soit au niveau central, au niveau du cerveau, soit au niveau vraiment périphérique, comme dans le cas d'une chirurgie après un cancer, où on va enlever, voilà, où le patient aura... où le chirurgien aura enlevé, par exemple, une partie de la langue de la personne, une partie de sa gorge, qui fait que, bah, automatiquement, s'il n'y a plus l'organe qui est censé faire le mouvement, et ben, ça va, voilà, ça va avoir des conséquences sur la déglutition. Donc, c'est très, très large. Les populations rencontrées en établissement de rééducation, qu'on appelle SSR, sont vraiment très, très larges. Ça va même de... Voilà, c'est des populations adultes, mais il y a aussi des établissements de rééducation pédiatrique, où là c'est des enfants qui arrivent en réanimation après des accidents de la route, après des maladies, voilà, au décours de maladies, de tumeurs cérébrales. Donc voilà, vraiment une tranche très très large de patients avec des problèmes de déglutition un peu à tous les niveaux. Le point commun à tous ces établissements, c'est vraiment la prise en charge, la prise en soin intensive des patients par toute une équipe de professionnels compétents.
En préparant cette table ronde, j'ai pu comprendre qu'il y avait un lien commun à tous ces patients qui étaient donc la fausse route. Céline, tu peux nous en dire quelques mots ?
Oui, bien sûr. Alors la fausse route, comme son nom l'indique, c'est quand les aliments ou la salive ou la boisson va prendre la mauvaise route. Voilà, il faut savoir qu'il y a deux routes. Hein. Ça peut être la route qui mène à l'estomac, ce qu'on appelle l'œsophage, qui est la route recommandée quand même quand on s'alimente ou quand on boit. Et l'autre route, c'est la route qui est normalement dédiée à l'air que l'on respire, c'est la trachée qui mène aux poumons. Et Marion l'a bien expliqué tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le carrefour aérodigestif, enfin c'est-à-dire le carrefour où la voie digestive et la voie aérienne se rencontrent, un carrefour un peu délicat, et c'est à ce moment-là que les aliments ou les boissons peuvent prendre la mauvaise route et aller directement du côté des poumons, ce qui est bien sûr à éviter à tout prix. Donc la déglutition des personnes avec un handicap neuromoteur peut être entravée par les difficultés motrices, puisque c'est vraiment ces difficultés-là qui sont le plus prégnantes. Ça peut être par exemple une contraction exagérée de certains muscles. Ça peut être aussi des mouvements parasites de la langue, qui ne fait pas les mouvements corrects pour la mastication, pour la déglutition, et donc qui fait prendre des risques aux patients. Voilà, quelquefois, je parlais de la mastication, elle peut être difficile, mais elle est parfois rendue complètement impossible à cause de ces troubles moteurs. On a en plus des réflexes protecteurs au niveau de la déglutition, alors comme le réflexe de toux, qui est très important, qui ne vont pas se déclencher ou qui vont se déclencher à retardement. À cause bien sûr des lésions cérébrales. Je reparle de handicap neuromoteur, ça c'est important. Et le risque, c'est la pneumopathie. Une fois que la mauvaise route a été prise, on peut avoir des infections au niveau des poumons qui vont être une des premières causes de décès chez les personnes polyhandicapées. Alors pour éviter les fausses routes, mais mes collègues en parleront peut-être également, la prévention, c'est d'abord l'installation, être bien installé, avoir la tête dans l'axe du tronc, éviter à tout prix une tête en hyperextension, c'est-à-dire la tête en arrière, qui va favoriser au contraire les fausses routes. On va également pouvoir proposer une adaptation des textures par rapport au risque de fausse route, mais aussi par rapport aux difficultés d'origine sensorielle, c'est-à-dire que chez nous, certains enfants ne supportent pas certaines textures. Si le plat proposé n'est pas mixé de manière homogène, s'il y a ce qu'on appelle un peu de grain dans le plat, ça va déclencher des réflexes nauséeux, C'est ce qu'on appelle un trouble de l'oralité alimentaire notamment. Voilà, donc si les textures ne sont pas toujours adaptées, ça peut provoquer des fausses routes, ça peut provoquer des aversions alimentaires avec des enfants qui vont refuser de s'alimenter si la texture ne leur convient pas. J'ai parlé notamment de l'adaptation des textures au niveau des aliments, mais il est important d'évoquer l'adaptation des textures au niveau des boissons, puisque la consistance va être très importante. Lorsque la personne va s'hydrater, une boisson trop liquide, c'est une boisson qui va faire risquer la fausse route chez le patient qui a des problèmes de sensibilité ou de déglutition. Donc on va adapter en fonction de la gravité, de l'importance du risque de fausse route, c'est-à-dire qu'on peut épaissir plus ou moins selon les critères de l'IDDSI notamment.
Alors merci Céline, c'est effectivement très intéressant cette notion de fausse route, mais surtout ce qui est important à noter, c'est cette adaptation de texture dont tu parlais Céline. Raphaël, je crois que ça c'est un point important dans la prise en charge des personnes âgées dysphagiques.
Oui, alors chez les personnes âgées, donc c'est un petit peu comme Céline l'a dit, on a les possibilités d'adapter les textures alimentaires. Donc qui vont du mixé, donc quelque chose de totalement lisse, voire même du semi-liquide pour certains, jusqu'à la texture normale. Donc entre, on a selon les établissements des textures mixées plus ou moins. Après, donc on a la texture, mais on a aussi la consistance, parce que donc une alimentation hachée, donc il y aura des morceaux d'une certaine taille. Elle peut être aussi plus ou moins lubrifiée par rapport au transport vers l'arrière, des textures qui glissent plus ou moins dans la bouche pour être amenées plus facilement vers l'arrière et déglutis plus facilement. Donc au niveau des textures en gériatrie, on a quand même souvent l'effet inverse aussi, c'est-à-dire qu'il y a souvent une prudence un peu exacerbée qui fait que les patients, dès qu'on remarque qu'ils toussent, dès qu'il y a quoi que ce soit, les équipes soignantes, qui parfois ne sont pas toujours formées aux troubles de la déglutition, ont tendance à passer le patient directement en alimentation mixée, ce qui peut être négatif pour le patient et lui nuire plus qu'autre chose, parce qu'on peut quand même faire des fausses routes avec des aliments mixés. Et ce qui aussi joue sur cette alimentation mixée, c'est le fait que les patients soient souvent édentés en EHPAD et les personnes âgées en général. Et c'est vrai qu'il faut bien se dire que la mastication est tout de même possible, même sans dents. Donc c'est important de le garder en tête parce que la fonction de mastication est importante à conserver. Et chez la personne âgée, une fonction qui n'est pas entraînée risque de se perdre. Donc c'est important de garder la fonction le plus longtemps possible. Et en plus, la mastication, elle fait vraiment partie du processus de déglutition. Donc, c'est ça aussi chez certains patients, le fait de mastiquer qui enclenche la suite. Et le fait, au contraire, de ne pas mastiquer peut entraîner la stagnation du bolus dans la bouche et empêcher les étapes suivantes de s'accomplir. Et en gériatrie, il faut donc garder en tête que la dénutrition est possible et peut être observé notamment chez les patients en alimentation mixée qui, en plus donc, de perdre leur capacité de mastication, perdent aussi parfois le plaisir de manger parce que l'alimentation mixée n'est pas toujours appétissante. Et cette dénutrition peut avoir des conséquences vraiment importantes chez la personne âgée, notamment une perte d'autonomie progressive, le risque de chute aussi qui augmente parce qu'on a une perte de la masse musculaire. Enfin, vraiment, le processus peut être vraiment rapide et aller vers du négatif progressivement et rapidement.
Pour compléter ce que dit Raphaël, la mastication a aussi une fonction d'entretien d'une bonne hygiène bucco-dentaire. Le fait de mastiquer, ça permet aux dents de ne pas s'entartrer, ça les nettoie, ça stimule les gencives, ça évite tous les problèmes de gingivite, etc. Donc c'est vrai qu'il est important de maintenir le mieux possible ou le plus possible cette fonction-là.
Et concernant donc les adaptations en EHPAD, donc on agit sur les textures, mais pas seulement. Donc comme le disait Céline tout à l'heure, on agit aussi sur la position du patient, la posture. En EHPAD, on observe parfois des patients qui mangent au lit. Donc pareil, de pouvoir incliner le buste, avoir le buste droit pour manger, c'est vraiment très important. On a aussi l'environnement qui joue beaucoup. Le fait qu'il y ait du bruit autour ou pas, le placement du patient dans la salle de restaurant. Les ustensiles également, en lien donc avec l'ergothérapeute, sur les difficultés qu'il peut y avoir au niveau praxique, donc au niveau des mouvements, et des ustensiles qui peuvent être moins bien utilisés, donc des nécessités d'adaptation à ce niveau-là. Et par rapport, donc comme je disais tout à l'heure, sur les démences et les troubles du comportement aussi alimentaire, donc là on peut vraiment avoir un impact sur le comportement des patients, chez les patients atteints de démence, par rapport au rythme du repas. On propose parfois un fractionnement des repas pour éviter le fait de mettre trop d'aliments dans la bouche d'un coup, enfin voilà, de pouvoir fractionner les prises alimentaires. Ça peut avoir vraiment un impact positif sur le repas des patients.
Donc là où chez certains patients, hein, l'impact semble irréversible, de ton côté Marion, toi tu parles plutôt de rééducation alimentaire, ceci afin de permettre aux personnes de remanger comme avant.
Alors c'est vrai qu'en établissement de rééducation, dans la phase où la personne peut suivre une rééducation intensive, on va davantage cibler cette rééducation. Alors ça n'empêche pas qu'on va avoir aussi qu'on va avoir des adaptations à mettre en place, comme ce qui a été évoqué, surtout chez les patients qui ne sont pas suffisamment éveillés, par exemple, qui sont trop fatigués, qui ne sont pas assez vigilants, pour qui c'est trop compliqué pour le moment, ou qui sont trop faibles, pour mettre en place une rééducation intensive. Les adaptations, c'est vraiment, pour nous, c'est quelque chose qui est censé être temporaire. C'est un peu comme quand on se casse la cheville, on va avoir des béquilles pour nous aider à marcher. Donc là, pour l'alimentation, dans nos établissements, on met en place les adaptations de texture, etc., pour permettre à la personne de remanger. Mais c'est temporaire et ça ne va pas régler son problème. Donc la rééducation, elle est censée, elle est là pour, au contraire, vraiment avoir un effet à long terme. Et on va, par exemple, pour une personne qui va avoir une chirurgie de la langue ou de la gorge, on va travailler, on va remuscler les organes qui restent, donc remuscler par exemple la partie de langue qui reste, muscler la gorge. Donc voilà, on va essayer de renforcer ce qui reste et de travailler, de compenser ce qui n'est plus là. Donc voilà, par exemple dans la déglutition, il y a un mouvement de langue qui va reculer, qui va venir au contact de la paroi postérieure de la gorge. Donc voilà, on va renforcer le recul de la langue avec la partie de langue qui reste, mais on va aussi essayer de compenser en renforçant la paroi postérieure de la gorge pour qu'elle vienne plus facilement au contact. Donc on a tout un panel d'exercices, de techniques de rééducation selon les troubles observés, selon les symptômes ressentis par le patient, selon voilà, ce qu'on aura objectivé un petit peu pendant nos évaluations pour essayer de cibler au plus près ce qui ne va pas et essayer voilà, c'est vraiment de la rééducation pour obtenir des gains fonctionnels à long terme et pour que à terme le patient puisse ne plus avoir besoin des adaptations de texture par exemple, qu'il puisse après remanger le plus en sécurité et avec la meilleure efficacité possible.
Alors concrètement, mesdames, en quoi consiste votre travail? Avec qui vous travaillez tous les jours?
Oui, donc concernant les troubles de la déglutition en EHPAD, donc moi mon travail consiste vraiment à faire des bilans de déglutition. Donc le bilan, c'est vraiment au départ l'analyse du dossier médical du patient, pour prendre vraiment toutes les informations nécessaires sur son état. Échanger aussi énormément avec les équipes soignantes, parce que donc, c'est eux qui voient le patient au quotidien, tous les jours, qui peuvent l'observer pendant ses repas et qui peuvent voir exactement ce qu'il en est. Ensuite, il s'agit pour moi d'observer un repas entier du patient. Donc c'est important voilà, de voir un repas entier pour pouvoir voir différentes textures et son comportement aussi habituel, vraiment dans les conditions habituelles de son repas, pour voir ce qui pose problème ou non. Et après, donc suite à ce bilan, donc on met en place les adaptations dont on a parlé tout à l'heure, au niveau soit des textures et tout ce qui est posture, environnement, comme on a expliqué tout à l'heure. Et après, ce qu'on garde vraiment en tête, notamment en gériatrie, mais aussi avec la patientèle de mes collègues, c'est vraiment le plaisir de manger, comme Marion l'expliquait tout à l'heure, c'est vraiment un plaisir qui doit rester un plaisir. Et on a tendance en gériatrie à trop limiter. Et c'est vrai que les patients qui sont quand même âgés on va dire, dans la dernière partie de leur vie, ils ont envie aussi de garder ce plaisir de manger. Donc, parfois, même sur certaines textures ou certains aliments qui sont peut-être difficiles pour eux, mais voilà, on essaye au maximum de garder une alimentation normale, une alimentation qui leur fait plaisir, pour vraiment garder le plaisir du repas. Après, mon travail consiste aussi à former et informer les équipes pour qu'elles puissent, elles, avoir des choses à observer pour aider en fait au dépistage en amont, parce que le but c'est pas que moi je vois tous les patients en bilan de déglutition, ce serait de toute façon pas possible et pas nécessaire, mais voilà, le but c'est que les équipes aient quand même un œil un petit peu attentif lors des repas et en dehors des repas pour voir un petit peu quel patient est en difficulté ou non, pouvoir donner des éléments déjà sur ce qu'elles ont pu observer. Et donc, suite à voilà, ce petit dépistage qui peut se faire en équipe avant, après, elle m'oriente, moi, les patients qui vraiment ont des difficultés et que je dois voir en bilan pour vraiment faire un état des lieux complet et les accompagner au mieux dans la suite de leur séjour.
En ce qui me concerne, mon travail auprès de mes jeunes patients en situation de handicap moteur, mon travail consiste en une prise en soin des troubles de la sphère buccofaciale. Et ça concerne l'alimentation, mais aussi la communication, puisqu'on parle aussi avec la bouche, bien sûr. En ce qui concerne l'alimentation, on passe beaucoup de temps à observer les enfants pendant les temps de repas, et on participe également activement au repas quand il s'agit d'évaluer les capacités de mastication, de rééduquer aussi, parce qu'on peut quand même travailler sur la rééducation de la mastication avec certains jeunes. Et puis, bien sûr, une grosse partie de notre travail qui concerne la prévention des fausses routes. Donc, on travaille énormément en équipe. Hein, quand on accompagne les repas des jeunes, il y a les éducateurs qui sont présents, qui connaissent bien ces jeunes-là et qui peuvent nous apporter des informations essentielles. Donc, c'est une coopération qui est importante. On travaille également en collaboration avec les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes, pour optimiser notamment l'installation des jeunes à table. Les ergothérapeutes vont, mais ça Marion l'a évoqué, vont aussi parfois proposer des couverts adaptés pour favoriser l'autonomie dans les repas. Par exemple, des cuillères avec des manches grossies, des assiettes antidérapantes ou des assiettes avec des rebords. Ça, c'est pour les enfants qui peuvent manger seuls et ce n'est pas le cas de tous. Sinon, il y a aussi des adaptations de couverts pour le confort plutôt. Ou la sécurité, par exemple des verres spécifiques qu'on va utiliser pour donner à boire à ceux qui ne peuvent pas boire seuls. Alors ces verres spécifiques, ça peut par exemple être des verres avec une découpe nasale, ce qu'on appelle des verres à encoche ou des verres échancrés, ce qui permettra de faire boire l'enfant sans qu'il ait à mettre la tête en arrière, donc sans qu'il se mette en danger au moment de la déglutition des liquides. On travaille aussi autour des troubles d'origine sensorielle et notamment en lien avec une hypersensibilité qu'on retrouve fréquemment chez cette population. Alors nous, on appelle ça des ateliers patouilles le plus souvent. Ce sont des temps où l'enfant va apprivoiser entre guillemets la nourriture. Alors bien avant de la mettre à la bouche, parce que parfois il y a une telle aversion que c'est compliqué si la nourriture n'est pas mixée. Donc ça va passer par le toucher, par l'odorat, sentir les aliments, quelquefois même les toucher, les mettre dans la bouche de l'orthophoniste ou de l'éducatrice qui accompagne. Et il peut s'écouler de longues semaines ou de longs mois avant que l'enfant accepte de mettre en bouche un petit morceau d'aliment, même s'il est fondant. C'est pas toujours évident, mais c'est vraiment une victoire quand ça se produit. Voilà, donc ces ateliers, ça peut être avec des psychomotriciens, des psychologues, des éducateurs, encore une fois, qui connaissent bien l'enfant. Et en tant qu'orthophoniste, on peut également être amené, toujours pour les troubles d'origine sensorielle, à proposer des massages de désensibilisation autour de la bouche et parfois même dans la bouche de l'enfant, des massages qui vont être faits très régulièrement pour apprivoiser aussi la bouche, la sensibilité au niveau de la bouche. On travaille avec plein d'autres professionnels, mais je vais quand même laisser mes collègues s'exprimer.
Alors, quel que soit j'ajoute aussi, quel que soit le domaine d'exercice et les patients accueillis, c'est important de dire qu'en tant qu'orthophoniste, on travaille toujours sur prescription médicale. Donc, on a d'abord un médecin qui nous qui voit la personne et qui fait une prescription pour des séances, pour un bilan et des séances d'orthophonie. Donc comme mes collègues, hein, L'intervention, elle commence, notre intervention, elle commence ben voilà, par la prise de connaissance du dossier du patient, par les échanges avec les soignants qui l'ont déjà rencontré. Et puis, les premiers contacts avec le patient, on va retracer un petit peu son histoire, l'histoire de la maladie. Et puis, on va procéder à une évaluation de la dysphagie, donc au bureau ou dans sa chambre ou à son lit. Cette évaluation, on va lui demander voilà, de faire un petit peu des... On va regarder comment la déglutition se passe et puis on va la coupler, si possible, avec ce qu'on appelle une évaluation instrumentale, c'est-à-dire qu'on va faire une radio, par exemple, une radio de la gorge de la gorge de la personne, une radio qui est dynamique, qui est filmée, en fait, et on va lui demander de manger d'avaler différentes textures et on va regarder à l'intérieur comment ça se passe pour vraiment savoir voilà, exactement ce qu'il en est. Et pour coupler un petit peu nos observations avec la réalité. Donc avec tout ça, on a une idée bien précise de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas et de ce sur quoi on peut s'appuyer pour que ça refonctionne. Donc après, en fonction voilà, des objectifs du patient, eh ben, on va construire ensemble un plan de soins, voir voilà, quel type d'exercice il va pouvoir faire, dans quel objectif, quand est-ce qu'on va réévaluer. Au quotidien, bah, y a énormément de communication avec le personnel soignant, le médecin prescripteur et puis les infirmiers, les aides-soignants. Les infirmiers, on peut avoir besoin d'eux, par exemple, quand les patients ont une canule, quand ils ont qu'ils ont du mal à respirer. Donc, dans certains cas, ils respirent par un tuyau qu'on leur aura mis à la base du cou pour simplifier un petit peu leur respiration. Donc là, on a besoin des infirmiers pour gérer un peu tout cet aspect des canules qui va venir un petit peu interférer avec la déglutition. On va travailler avec des kinés quand les patients ont un encombrement bronchique, quand ils ont des problèmes un peu posturaux ou quand au niveau du cou, c'est pas très mobile. On a besoin que les kinés voilà, remettent un petit peu de mobilité, d'amplitude là-dedans. Ils vont pouvoir aussi travailler les cicatrices qui peuvent être adhérentes et limiter aussi les mouvements de déglutition. Les ergos, comme Céline a dit, pour tout ce qui va être adaptation des fauteuils, des ustensiles. Bien sûr, les agents hôteliers aussi qui sont au contact du patient, c'est eux qui vont qui vont lui emmener les plateaux, qui vont être vraiment au quotidien. Donc, on a beaucoup de liens avec les agents hôteliers, les diététiciens, les cuisines, pour tout ce qui est adaptation de texture. Ou quand il y a une nutrition entérale qui est mise en place, donc quand la personne ne peut pas s'alimenter entièrement par la bouche, on peut avoir recours à des sondes de nutrition entérale qu'on va mettre dans le nez ou directement dans l'estomac pour équilibrer un petit peu les apports. Donc ça, c'est un petit peu tous les personnels avec qui on travaille au quotidien en fait en institution. Qu'on va former aussi aux troubles de la déglutition pour vraiment tous travailler dans la même dynamique, le même objectif. Et puis, bien sûr, quel que soit notre lieu d'exercice et les personnes qu'on rencontre, on travaille le plus possible aussi avec l'entourage et les familles qui sont elles aussi au quotidien, dans le quotidien de ces personnes.
En discutant avec vous, je me suis rendu compte que le contexte n'était pas simple pour les orthophonistes en établissement. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques principales difficultés que vous rencontrez ?
Alors déjà, je pense que une des sources de la problématique, c'est le fait que la dysphagie, c'est un handicap invisible. La déglutition, ça se passe à l'intérieur, on ne voit pas, on n'est d'ailleurs généralement même pas conscient qu'on avale. On avale entre 700, 1000, parfois 2000 fois par jour sans en être conscient. Donc la dysphagie, c'est invisible, c'est un handicap qu'on ne voit pas. Donc partant de là, on a peu conscience du problème et il y a très peu de... il n'y a pas de reconnaissance en fait de ce handicap et donc de la nécessité de recourir à des orthophonistes et donc il y a aussi peu de moyens pour le mettre en œuvre.
Donc oui, par rapport à ça, effectivement, on se rend compte parfois que les équipes sur place sont pas forcément formées aux troubles de la déglutition. ou alors ils ont pour certains une idée parfois fausse, notamment par rapport à la toux par exemple. Donc Marion parlait d'un handicap invisible, c'est vrai que ce qu'on voit des fausses routes, enfin ce qu'on peut voir c'est éventuellement la toux, mais le fait de tousser ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une fausse route, et à contrario quand on fait une fausse route on ne tousse pas forcément, et ça les soignants sont pas toujours au clair là-dessus, enfin moi c'est ce que je remarque au quotidien. Donc c'est vrai que voilà, le fait de former, d'informer les soignants, c'est vraiment quelque chose d'important et voilà, qui peut avoir vraiment un bénéfice important pour nos patients. Et je rajoute aussi par rapport à ça, et notamment par rapport donc, aux fausses routes silencieuses dont je viens de parler, sur le fait qu'on fasse des fausses routes sans forcément tousser. J'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'il est important pour les soignants d'avoir en tête l'hygiène bucco-dentaire. Donc Céline en avait parlé aussi tout à l'heure, mais c'est vraiment très important parce qu'on a donc ces fausses routes silencieuses qui peuvent entraîner des pneumopathies, et les soignants sont pas voilà, forcément au clair et n'ont pas toujours ne voient pas toujours l'importance voilà, d'insister sur cette hygiène bucco-dentaire qui est vraiment primordiale.
Pour terminer, je peux aussi parler du secteur médico-social dont on entend quand même pas mal parler en ce moment, qui est mise à mal, avec énormément de difficultés à recruter des professionnels. Des orthophonistes, il y en a dans le secteur enfant, il y en a de moins en moins quand les patients grandissent, notamment dans le milieu du handicap. Et du coup, le recrutement est difficile, pas seulement chez les orthophonistes, mais je vous parlais d'éducateurs tout à l'heure, on parlait d'aides-soignants, d'infirmières, etc. Ce qui fait qu'on travaille dans des conditions qui ne sont pas idéales, avec beaucoup de personnes qui viennent travailler en intérimaire, donc comme tu le disais tout à l'heure, Raphaël, qui ne sont pas forcément formés ou qui n'ont pas l'expérience par rapport aux troubles de la déglutition. Et bien sûr, cela crée des conditions de travail qui ne sont pas toujours évidentes.
On peut rajouter, donc, par rapport aux troubles dysphagiques, moi, ce que je rencontre aussi au quotidien comme difficulté, c'est par rapport à l'offre de restauration, donc toutes les adaptations de texture dont on a parlé. Donc c'est pas toujours évident à mettre en place au quotidien parce que donc au niveau de la dysphagie, l'idéal c'est d'avoir vraiment quelque chose de personnalisé par rapport au patient parce que chaque patient a ses difficultés et pour chacun les adaptations seront différentes. Et le fait de personnaliser les repas, ça peut être compliqué au niveau des cuisines de s'adapter derrière. Donc Marion nous parlera peut-être de l'IDDSI qui permet d'harmoniser un peu tout ça. Mais de toute façon, même avec cette échelle, c'est vrai que c'est difficile de le mettre en place en cuisine parce que l'idéal serait d'avoir des textures vraiment nombreuses pour pouvoir s'adapter à chacun de nos patients.
Et toujours concernant le manque, le manque d'orthophoniste, le manque de recrutement, c'est vrai que ça entraîne aussi souvent, et on le voit en institution, ce qu'on appelle des glissements de tâches, c'est-à-dire que il n'y a pas d'orthophoniste, on n'arrive pas à recruter ou alors on ne cherche pas trop à recruter, ben c'est pas grave, on va demander à un infirmier, un diététicien de faire le bilan de la déglutition, alors que en France, on a deux professionnels qui sont habilités à le faire, qui sont formés, les orthophonistes, les kinés, et c'est vrai que tous ces glissements de tâches ou des psychomotriciens, des ergothérapeutes qui vont être appelés à faire ces évaluations, n'ayant pas la formation initial pour, ayant fait éventuellement une petite formation continue, c'est vrai que ça ne suffit pas, c'est pas des professionnels qui sont habilités et donc on perd l'expertise en fait des orthophonistes et les patients sont pris en soin par du personnel qui n'est pas qualifié avec tout ce que ça peut entraîner comme problématique derrière.
Je voudrais aussi rebondir justement sur l'adaptation des textures. Une des difficultés qu'on rencontre dans le milieu du handicap, notamment avec des jeunes, c'est... Alors, il faut savoir que ce sont des familles qui ont dû faire le deuil de la marche au niveau des capacités de leur enfant et qui doivent aussi faire le deuil parfois de la communication orale, des enfants qui ne pourront pas parler ou pas s'exprimer de manière intelligible à l'oral, et enfin le deuil d'une alimentation normale, et ça c'est pas toujours évident. Donc on a un gros travail à faire avec les familles. Par exemple, il se peut que dans nos établissements, les enfants aient des adaptations pour les repas, des adaptations au niveau des textures, qu'ils mangent en mixé pour sécuriser parce qu'il y a un risque de fausse route réelle qui a été évalué par les orthophonistes. mais que par ailleurs, quand ils sont chez eux le week-end ou pendant les vacances, ils continuent à manger des morceaux, à faire des fausses routes, parce que c'est tellement douloureux pour les parents de faire le deuil de cette alimentation, qu'ils sont prêts à prendre ce genre de risque. Donc on a aussi un gros travail d'accompagnement des familles dans ce domaine, et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de notre métier, mais c'est une réalité que je tenais à soulever aussi.
Donc en conclusion, la dysphagie est un trouble ayant plusieurs conséquences, tant pour le patient que pour le personnel impliqué. Je comprends que c'est une maladie invisible, donc oubliée, qui rend le diagnostic compliqué. Je note que le principal enjeu est de proposer un meilleur confort, de maintenir le plaisir par l'assiette. Merci beaucoup Céline, Marion, Raphaël pour votre participation à ce podcast.
Merci.
Retrouvez tous nos podcasts sur nutrisense.fr.